Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp, paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.
Prophète en son pays. À Bayonne déjà, Maître Ignace est repéré par de braves gens qui ne trouvent rien de mieux que de se précipiter à Loyola pour prévenir son frère Martin Garcia. En pénétrant dans sa région natale, Ignace ne prend pas le chemin ordinaire qui devait le conduire à Aspetia. Il s'aventure à travers la montagne sur les détours d'un sentier solitaire. La ruse consiste à tromper d'éventuels poursuivants. Raté. Après un bout de chemin, il remarque deux hommes armés qui le rejoignent, puis retournent sur leurs pas et se mettent à le serrer de près. L'endroit est mal famé. Ignace prend peur, mais fidèle à cette technique, c'est lui qui intercepte les inquiétants personnages. Ce sont deux serviteurs de Don Martin Garcia, seigneur de Loyola, venus pour l'escorter jusqu'à la demeure familiale. Ignace refuse énergiquement leur aide. Il n'a d'ailleurs pas l'intention de séjourner à Loyola et congédie les deux hommes. La sollicitude fraternelle de Martin Garcia n'est pas entièrement désintéressée. J'ai dit, il avait voulu empêcher Inigo de courir à sa perte en flairant quelque illuminisme chez son jeune frère. Désormais renseigné par l'escorte sur l'allure et les sentiments de Inigo, il craint le scandale. Une seconde source d'information n'est pas pour le rassurer. Avant d'entrer à Aspetia, Ignace s'arrête dans une auberge. Un certain Juan de Eguibar, fournisseur des boucheries de la ville, est intrigué par le voyageur au petit cheval. Il se fait conduire à sa chambre et regarde par une fente de la porte. Il voit Ignace à genoux, en prière. Cet Eguibar appartenait à une famille de fermiers de Loyola. Il reconnaît Inigo et s'empresse de communiquer à la maison de ses anciens maîtres une nouvelle qu'on sait déjà. Don Martin Garcia envoie alors un prêtre quérir son frère. Sans plus de succès, Ignace va demander un gîte à l'hôpital de la Madeleine, quelques centaines de mètres avant l'entrée d'Aspetia. Ignace ne dit rien des soins qu'il prit pour sa santé. Nous sommes mieux renseignés sur la cure de santé morale qu'il entreprend pour la conversion de ses compatriotes. Son premier soin est d'enseigner le catéchisme. Il n'est pas prêtre, mais tout de même, maître S.R. de Paris, un certificat de théologie en poche, sans oublier le jugement favorable de l'inquisiteur de Paris. Il peut donc affronter un auditoire qui lui réserve un accueil grandissant. Le 25 avril, à l'occasion des rogations, il monte sur un prunier pour être mieux vu et entendu. De cette chaire improvisée, il fustige les vices et les mœurs relâchées des gens d'Aspetia. Il réussit à réconcilier des familles brouillées, à régulariser des mariages. Pour faire cesser les concubinages, il use même du recours aux bras séculiers. Il persuade le gouverneur d'édicter une loi selon laquelle une femme qui se couvrirait la tête, signe du mariage, pour un homme sans être son épouse, serait puni par la justice. Un marc d'amende et une année de bannissement hors de la juridiction d'Aspetia pour une première infraction. Double tarif en cas de récidive. C'est encore pour remettre de l'ordre dans sa propre famille qu'il acceptera de monter une nuit à Loyola. Sa belle-sœur, Madalena de Araos, l'en avait supplié par ses pères et mères et par la passion de notre Seigneur. Ignace en donnera la raison quelques années plus tard. L'un de ses neveux, qui devait bientôt contracter mariage, avait une maîtresse. Chaque nuit, cette femme pénétrait par une porte secrète. Cette nuit-là, elle fut accueillie par Ignace, qui l'enferma dans une chambre et l'y garda jusqu'à l'aube avant de la renvoyer. L'histoire ne dit pas si la leçon fut efficace. Plutôt que de réformer le monde, Ignace montre le soin qu'il apporte à rétablir la justice et la paix parmi ses proches. Avant de quitter pour toujours sa terre natale, il joue encore un rôle décisif dans la conclusion d'une controverse qui empoisonnait depuis plus de 20 ans la paroisse d'Aspeitia. Une cousine d'Ignace avait fondé, au début du siècle, un couvent de religieuses franciscaines. Cette fondation était située tout près de l'église paroissiale à laquelle elle portait ombrage. En effet, elle attirait des cérémonies religieuses, donc des bénéfices. Un jour, lors d'un enterrement, le recteur de l'église paroissiale alla s'emparer du cadavre du pieux défunt pour qu'il ne soit pas inhumé chez les moniales. Tout cela était sordide. Entre le couvent de l'Immaculée Conception et le clergé local, la guerre était si âpre qu'elle aboutit à un procès devant la curie romaine. Rome donna tort aux religieuses et les condamna à 180 ducats d'amende. Une autre fois, le clergé obtint leur excommunication par l'évêque de Pampelune. On vit aussi Pedro López, frère d'Ignace et fief et coquin, interrompre une messe et réduire en pièces un autel provisoire. Jadis, Ignace s'était jeté dans la bagarre, venu effacer les traces d'un passé peu reluisant et conclure les effets de sa conversion, il pèse de tout son poids dans le véritable traité de paix en 21 points, qui, le 18 mai 1535, rétablit la concorde entre les parties. Cette rude tâche accomplie, Ignace quitte son pays vers la fin juillet. Les événements des mois vécus à Aspeitia ont une apparence d'anecdote édifiante. Ils cachent des dimensions que leur principal acteur ne pouvait pas soupçonner. Son action au Guipuscoa inaugure en réalité toute une série d'initiatives que Ignace prendra à Rome en faveur des déshérités et que la Compagnie de Jésus au XXe siècle reprendra sous la forme de son engagement pour le service de la foi et la promotion de la justice. En route vers l'Italie, où il va attendre l'arrivée des compagnons de Paris, Ignace rend visite aux frères de François-Xavier et au père de Jacques Lainès, pousse jusqu'à Valence, débarque à Gênes et prend la route de l'Émilie à destination de Bologne. Il lui faut pour cela traverser la chaîne des Apennins, une entreprise qui lui réserve la frayeur de sa vie. À un certain moment, il s'égare sur un chemin tel qu'il ne peut plus ni avancer ni revenir en arrière. Il se tire d'affaire à quatre pattes, mais il avouera plus tard que ce furent là la plus grande fatigue et la plus grande épreuve physique qu'il eût jamais connue. Étrange aveu, quand on se souvient de la boucherie chirurgicale après Pampelune ou des mille périls de la mer. Avant d'arriver à Bologne, il tombe encore d'un petit pont et se retrouve boueux et si trempé qu'il déclenche l'hilarité des témoins. Dans la ville, il ne trouve pas l'hospitalité escomptée, ni le climat propice à sa santé. Il tombe malade et décide de passer sans attendre à Venise. Toute l'année 1536, il reste dans la cité des Doges à donner les exercices, parfois à de hautes personnalités politiques et ecclésiastiques. Il fait également la conquête d'un bachelier qui revenait de pèlerinage à Jérusalem et qu'il connaissait depuis Alcala, Diego de Ossès. La rencontre avec Ossès coïncide avec un impair que Ignace va payer chèrement quelques années plus tard. le bachelier commence les exercices, mais se munit de quelques livres au cas où Maître Ignace lui enseignerait des doctrines douteuses. Pourquoi cette méfiance ? Diego fréquente également l'évêque de Gieti, Gian Pietro de Carafa, qui a fondé en 1524 avec Saint Gaëtan de Tienne l'ordre des Théatins. À Venise, Ignace est aussi entré en relation avec Carafa, pour lui adresser des critiques sur le mode de vie des Théatins. Faisant preuve d'une certaine outrecuidance, il ose prédire au prélat que sa compagnie ne pourra pas s'étendre. Ce qu'Ignace n'a pas prévu, c'est la carrière personnelle de Carafa. En 1537, il devient cardinal et le 23 mai 1555, il est élu pape sous le nom de Paul IV. Devenu général des jésuites, Ignace vivra les derniers mois de sa vie sous le pontificat d'un homme qu'il a censuré à Venise, mais auquel il est lié par le vœu d'obéissance.
Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.